Benki va vous causer. Benki va vous parler.
Yo, je suis ravi de vous retrouver et avant de commencer, je vais m'excuser pour deux choses. Alors premièrement, je sors d'une angine carabinée, donc je suis désolé si ma voix n'est pas aussi suave que d'habitude. Et deuxièmement, j'ai genre 20 pages de notes, donc la vidéo risque d'être un peu plus longue que celle que vous avez vue avant sur ce format. En même temps, on n'est pas là pour rien, on est là pour parler du papa de Sonic, Yuji Naka, et croyez-moi, bah, c'est un gros morceau bourré d'anecdotes complètement maboule. Alors je préviens tout de suite, je parle de Yuji Naka comme étant le papa de Sonic, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, ils sont plusieurs à se partager la garde du hérisson. Vous-même, vous avez peut-être entendu parler des frasques de Yuji Naka sur Twitter qui ont fait la une des magazines de jeux vidéo l'été dernier. En fait, Yuji Naka a fait un tweet très controversé pour les 25 ans de Nights into Dreams. Dans ce tweet, on pouvait voir une photo qui date de 1995, sur laquelle un des membres de l'équipe avait été grossièrement effacé par Yuji Naka. Et c'est pas un développeur lambda, c'est vraiment une personne importante que Yuji Naka a voulu apparemment effacer de l'histoire. Alors on va parler de cette histoire parce qu'en fait elle cache une affaire beaucoup plus grosse et assez écœurante. Et pour bien comprendre toutes les ramifications de cette histoire assez complexe, il va falloir qu'on revienne un petit peu aussi sur la carrière de Yuji Naka depuis la création de Sonic en 91. Parce que cette histoire de photos censurées, elle prend ses bases assez loin, et surtout elle est liée à une grosse affaire qui donnera lieu à un procès, celui du papa de Sonic. Bon alors, pour commencer sur de bonnes bases, on va essayer de comprendre qui est Yuji Naka et qu'est-ce qui l'anime. Parce que contrairement à d'autres stars japonaises du jeu vidéo comme Miyamoto ou Kojima, Yuji Naka, on connaît son nom, mais on connaît très peu sa carrière et ce qui fait de lui qui il est. Alors d'ailleurs, je vais pas m'attarder sur tous les jeux de sa carrière, mais je vais plutôt m'arrêter sur des trucs qu'il a fait qui sont peut-être un peu moins connus et un peu plus curieux. Alors avant de devenir célèbre, Yuji Naka, c'était un développeur qui a rejoint Sega quand il avait 20 ans. D'ailleurs, il le dira lui-même, il se sentait un peu petit parce que c'était le plus jeune parmi des gens qui étaient là depuis déjà quelques années. À son arrivée, il n'y avait que des gens plus vieux que lui et forcément ça l'a un petit peu intimidé. Dès son enfance, Yuji Naka c'est quelqu'un qui est très inspiré par les sciences et les mathématiques et c'est aussi un très grand fan d'automobile. C'est aussi un grand fan du groupe Yellow Magic Orchestra et c'est ça qui va l'amener à acheter un ordinateur pour faire de la programmation musicale. Bon, au final, il se sent pas l'âme d'un musicien, et il va s'intéresser à la programmation tout court de logiciels. Il est autodidacte et il va apprendre beaucoup en essayant de reproduire des jeux d'arcade qu'il adore. À 17 ans, c'est un très grand fan de Namco et des bornes d'arcade de Namco. Et il va d'ailleurs même essayer de postuler chez eux, mais ça passera pas parce qu'il devait faire des études en même temps et il n'avait pas d'études en cours, donc il pouvait pas rentrer chez eux dans leur programme. Donc comme je vous ai dit, il va atterrir à 20 ans chez Sega, il va commencer par porter des jeux d'arcade pour la SG-1000 de Sega. Puis il va faire pareil pour la Master System, où il va porter des jeux d'arcade de Yu Suzuki, notamment Space Harrier et Outrun. D'ailleurs, à l'époque, on n'appelait pas ça vraiment des portages, mais plutôt des conversions depuis l'arcade. Bon, sachez que je vais pas être vraiment tendre avec Yuji Naka dans cette vidéo, mais s'il faut bien avouer une chose, c'est que ce gars, il est responsable de mon amour pour le jeu vidéo. Les portages arcade dont je vous parle sur Master System, ainsi que d'autres jeux comme Black Belt, c'est vraiment des jeux qui font partie de mes tout premiers jeux d'enfance avec Sonic, et on peut dire que j'ai été élevé avec les jeux vidéo de Yuji Naka. Et c'est quelque chose qui me semblait important à préciser, avant qu'on commence à le malmener. Il suffit de voir à quoi ressemblent les conversions arcade de Yuji Naka pour la Master System pour comprendre que le gars avait totalement compris comment exploiter la 8-bit de Sega. Et d'ailleurs, des très bonnes conversions arcade comme ça, il va continuer à en faire jusqu'à la Mega Drive. D'ailleurs, quand la Mega Drive sort, lui, il va être évidemment en première ligne, il va pouvoir totalement regarder l'architecture de la console avant même qu'elle sorte, et il va commencer très vite à programmer comme une brute sur la machine, notamment sur une conversion de Ghouls and Ghosts, mais aussi avec un gros bébé qui prépare et qui risque de changer sa vie, le premier Sonic. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est loin d'être le seul à avoir donné naissance à Sonic. Yuji Naka, avec ses doigts de fée, s'est surtout occupé de la programmation du moteur du jeu, et ce, avant même que Sonic ne soit dessiné pour la première fois. Il avait un moteur qui exploitait parfaitement les capacités de la console, et tout le monde était d'accord chez Sega pour que ce moteur serve à faire un Mario Killer. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que va naître Sonic. C'est Naoto Oshima qui va lui donner ses traits et le dessiner pour la première fois, alors que Yuji Naka, lui, il avait juste demandé une fois un personnage mignon qui puisse se mettre en boule. D'ailleurs, à la base, il avait plutôt demandé un panda. Naoto Oshima, c'est quelqu'un qui va être assez important dans cette histoire, puisqu'avec Yuji Naka, ça va être les créateurs de ce qu'on appelle à l'époque pour la première fois, la Sonic Team. Bon, alors à l'époque, c'est pas vraiment un studio à part, c'est plutôt un surnom qu'on donne à l'équipe de Sega Research and Development qui s'occupe du jeu Sonic, mais plus tard, comme vous le savez, ça deviendra une entité à part entière. Bon alors, rappelons quand même que s'il n'a pas créé Sonic tout seul, ça n'enlève pas au talent de Yuji Naka. D'ailleurs, avec son moteur, on voit très bien qu'il connaît tout de suite les points forts et les points faibles de son adversaire, Nintendo. C'est grâce à ça qu'il va prendre de très bonnes décisions, comme par exemple faire de Sonic un jeu qui peut se jouer avec un seul bouton d'action. C'est bête à dire, mais à l'époque, ça représentait une certaine accessibilité envers les joueurs les plus novices qui n'avaient pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Mais Yuji Naka, il est aussi conscient qu'avec la Mega Drive, ils ont l'avantage technique, puisque la Super NES n'en est qu'à ses premiers pas sur le marché. Et pour Yuji Naka, Sonic, ça représente un vrai défi technique, et il va s'appuyer sur toute son expérience de la Mega Drive, que ce soit les conversions arcade sur Mega Drive, ou même son expérience sur Phantasy Star. Phantasy Star, c'est une série de RPG, pour ceux qui connaissent pas, qui est assez importante pour Yuji Naka. Elle a commencé sur Master System, et justement, avec la Mega Drive, c'est le deuxième épisode qui va directement produire. Je m'arrête dessus parce que c'est la première fois qu'il va enfiler sa casquette de producer. Ça veut dire qu'il va bosser sur le jeu, mais qu'il va aussi avoir la main sur un certain nombre de décisions importantes concernant la direction du jeu. Ce qui n'est pas rien pour quelqu'un qui était simple développeur encore quelques années plus tôt. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui va très vite monter les échelons dans son entreprise. Et d'ailleurs, après le succès de Sonic 1, Sega va plus vraiment pouvoir rien refuser à Yuji Naka. Et en quelques années, c'est vraiment devenu la star de chez Sega. Faut dire qu'à l'époque, le moteur de Sonic 1, il est juste imbattable. On n'a jamais rien vu d'aussi coloré et d'aussi rapide sur une télé. Sega lui avait demandé un Mario Killer, il l'a fait, et le reste fait partie de l'histoire. Alors on va passer rapidement sur le reste de l'ère Mega Drive qu'on connaît tous un peu, sachant qu'à l'époque, il a principalement bossé sur les suites de Sonic, sur lesquelles il est très impliqué d'ailleurs. Déjà dès Sonic 2, Sega va lui proposer de déménager pendant 3 ans aux États-Unis pour rejoindre le Sega Technical Institute, une proposition que Yuji Naka va accepter évidemment, en laissant derrière lui une partie de son équipe, et notamment Naoto Oshima. À la tête du Sega Technical Institute à l'époque, on retrouve un autre génie de la technique, un certain Mark Cerny. Alors Mark Cerny, vous connaissez son nom aujourd'hui parce que c'est celui qui a fait l'architecture de la PS4 et de la PS5. Et Yuji Naka, quand on lui propose ça à l'époque, il est ravi, il accepte tout de suite. C'est quelqu'un qui est passionné par les États-Unis et le mode de vie à l'américaine. D'ailleurs, fun fact, quand il était jeune, il participait à des quiz publics sur les traditions américaines. Et d'ailleurs, régulièrement, il ressortait gagnant de ces quiz. Voilà, Yuji Naka, quand il était jeune, il était fan de quiz sur les États-Unis. D'ailleurs, je pense que Yuji Naka, il a aussi accepté parce qu'il savait très bien qu'une grosse partie de la machine Sega consacrée à Sonic allait se faire aux États-Unis avec des équipes plus grandes. Il avait l'air d'être au courant qu'une partie des spin-offs de la série allait être commandée à des studios basés aux États-Unis. Donc j'imagine qu'il voulait aussi aller là-bas pour pouvoir surveiller ça de près. Et en allant là-bas, il est aussi sûr d'être en première ligne concernant les innovations techniques de Sega, le Sega Technical Institute étant situé en plein cœur de la Silicon Valley. Et donc il va produire Sonic 2 en plus de travailler dessus, il va laisser Sonic CD à Naoto Oshima au Japon, et il va même filer un coup de main à l'équipe qui s'occupe de Sonic Spinball. Sonic 2 est un vrai succès, c'est d'ailleurs le deuxième jeu le plus vendu de la Mega Drive, juste derrière Sonic 1, qui triche parce qu'il était vendu en bundle avec la console. Et depuis que Yuji Naka est parti du Japon, auprès de ses collègues japonais, il incarne un petit peu le rêve américain. Il a vraiment une espèce d'aura de star chez Sega à cette époque, et une partie des développeurs qui étaient restés au Japon va finir par le rejoindre pour faire Sonic 3 et Sonic 3 et Knuckles. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au milieu des années 90, Yuji Naka et Sega, c'est une affaire qui roule. C'est une relation qui est fragile mais qui est construite sur de bonnes bases, et c'est une espèce de château de cartes en parfait équilibre. Qui va rapidement s'écrouler avec l'arrivée de la Sega Saturn. Voilà, maintenant qu'on a fini cette petite introduction au premier succès de Yuji Naka chez Sega, on va pouvoir s'intéresser au reste de sa carrière qui est pleine de rebondissements. Bon alors, faut savoir que quand Yuji Naka il revient au Japon après Sonic & Knuckles, il revient entouré d'une certaine aura. D'abord parce qu'il gagne très bien sa vie, il va d'ailleurs s'acheter une Porsche et une Ferrari, deux voitures avec lesquelles il ne manquera pas de s'afficher. Yuji Naka, c'est quelqu'un qui à l'époque et même encore aujourd'hui est plutôt fier de lui, et d'ailleurs il ne manque jamais de rappeler que déjà à l'époque, il s'est très vite rendu compte qu'il gagnait plus d'argent par rapport à des gens qui étaient plus âgés que lui, et il raconte souvent que ça aurait suscité la jalousie de ses collègues. Puis il y a autre chose, c'est que depuis Sonic 2 et son énorme carton, mais les magazines de jeux vidéo étrangers commencent à connaître son nom et à s'en rappeler. Ce qui, je le rappelle, à l'époque était relativement rare et plutôt un signe de succès. Donc on parle là d'un gros succès des Sims et du melon qui va avec, qui va pousser évidemment Yuji Naka à prendre de très mauvaises décisions. Vous le savez, la Sega Saturn, ça a été une période plutôt critique pour Sega et pour les développeurs qui voulaient développer dessus, parce que c'était une console sur laquelle c'était plutôt difficile de programmer. Mais aussi à cause de la concurrence, la N64 et la PlayStation, qui avaient peut-être mieux choisi leurs cartes dès le départ, puisqu'elles étaient carrément conçues pour cracher de la 3D. Mais selon moi, je pense qu'on peut dire que Yuji Naka a une petite part de responsabilité aussi dans l'échec cuisant de la Saturn. D'abord, dès la période de gestation de la Saturn, il va pas vouloir s'investir dans un Sonic en 3D pour se concentrer sur son idée à lui, Nights into Dreams. Faut dire qu'à l'époque, il est beaucoup associé à la mascotte de Sega, et j'imagine qu'il veut un peu s'extirper de cette image. Et d'ailleurs, il le dit même maintenant hein, quand on lui en parle, à l'époque, il en avait marre de Sonic. Et en même temps, faut le comprendre, ça faisait déjà 5 ans qu'il bossait sur la licence, et avec l'arrivée des consoles en 3D, c'est surtout pour lui l'opportunité de faire ses preuves une nouvelle fois pour ressortir du lot. Et Yuji Naka, quand il a envie de quelque chose, et bah, il va s'y investir à fond. Et ça, c'est une des caractéristiques de Yuji Naka, c'est que quand il veut quelque chose, quand il a envie de faire quelque chose, et bah, il va s'y investir à 100%. Et ça se voit d'ailleurs, hein, parce que Nights into Dreams, c'est une des rares claques techniques de la Sega Saturn. En tout cas, il n'y en a pas énormément sur la console comparé aux concurrents. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un des rares jeux Saturn qui peut concurrencer graphiquement avec ce que faisait la PlayStation. L'univers de Nights, en plus, il est à la fois proche et éloigné de Sonic, tout en restant totalement dans l'esprit Sega. Et même si c'est un jeu qui offre peu de liberté, bah son petit côté arcade le rend vachement plaisant à jouer. Nights into Dreams, c'est vraiment un jeu dont on ressent qu'il a été fait avec passion. Yuji Naka, il produit le jeu, mais il est aussi lead programmeur, ce qui fait qu'il va aider à programmer tout le moteur 3D du jeu, un moteur qui est créé d'ailleurs dans le but d'être réutilisé par Sega pour un certain nombre de jeux sur la console. Mais voilà, le problème de Nights, c'est que c'est beaucoup moins ambitieux qu'un Sonic en 3D, et surtout, c'est beaucoup moins vendeur. D'ailleurs, il s'est beaucoup moins vendu. D'ailleurs, à mes yeux, c'est à ce moment-là que va y avoir un changement radical et définitif dans la façon de travailler de Yuji Naka. Je pense que malheureusement, il a été un petit peu blessé que son bébé ne remporte pas autant de succès que Sonic. Et c'est vrai qu'après une décennie de succès chez Sega, le gars a dû tomber un peu du haut de sa chaise en voyant que Nights se ramassait un peu. Et Nights, bah, ça sera la dernière fois où Yuji Naka va mettre lui-même les mains dans le code de son jeu, Ever. En plus de ça, à côté, Sega a refilé le fameux Sonic en 3D au Sega Technical Institute aux États-Unis. C'est le fameux Sonic Extreme, dont le développement a été un cauchemar et donc qui a été annulé par la suite. J'ai fait une petite vidéo dessus, allez la voir. Et Yuji Naka, quand il sort du développement de Nights, bah, il se rend compte que le STI, il est en train d'utiliser le moteur de son jeu pour faire le Sonic en 3D. Autant dire qu'à ce moment-là, Yuji Naka, il est un peu salé, voire un peu rancunier. Et quand il apprend qu'on se sert de son moteur sans lui avoir dit, et bah il va passer en mode méga connard. En fait c'est simple, il va directement menacer Sega Japon de quitter la boîte si son moteur est utilisé pour le Sonic en 3D. Forcément Sega peut pas négocier face à ça, et donc Yuji Naka va repartir avec son moteur sous le bras en laissant le STI se démerder avec rien, les menant évidemment vers un développement encore plus chaotique. Yuji Naka qui est en train de produire la compilation Sonic Jam pour se venger, bah, il va utiliser son beau moteur pour montrer à quoi ressemblerait un Sonic en 3D sur la Saturn. Et si ça, c'est pas un crachat en pleine gueule à l'équipe de Sonic Extreme, bah je sais pas vraiment ce que c'est. Et à propos de ça, c'est pas le seul coup de Trafalgar que Yuji Naka traîne dans ses casseroles, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Et donc comme vous le savez, Sonic Extreme ne sortira jamais, les joueurs Saturn devant se contenter du Sonic R que Yuji Naka produit et supervise. Et donc pour revenir aux raisons de l'échec de la Saturn, on peut dire que c'est Yuji Naka qui a privé la Saturn de son Sonic en 3D, d'abord en imposant Nights comme un faire-valoir de la Saturn à la place de Sonic, puis en sabotant le projet Sonic Extreme pour ne pas qu'on lui vole le premier Sonic en 3D. Alors attention, hein, je dis pas que la Saturn aurait cartonné si elle avait eu un Sonic en 3D même au lancement, je dis juste qu'à l'époque ça aurait pu éventuellement amortir la grande chute de la Saturn. D'ailleurs le fameux petit monde en 3D de Sonic Jam, hein, c'était pas qu'une revanche pour Yuji Naka, c'était aussi une façon de commencer à travailler sur ce qu'allait devenir Sonic en 3D pour la prochaine génération. Et pour finir avec la Saturn sur une note plutôt positive, et puis parce que j'avais promis qu'on parlerait pas que de Sonic, il faut absolument que je cite un des premiers jeux produits par Yuji Naka hors Sonic, qui est Burning Rangers. Alors si vous connaissez pas Burning Rangers, et c'est possible parce que c'est un jeu qui restait coincé sur la Saturn, c'est un jeu de pompiers du futur façon animé japonais. J'aime beaucoup la direction artistique du jeu et ses musiques, et ça permet de voir à quel point Yuji Naka a le nez fin en tant que producteur, parce que il va utiliser les meilleurs talent de chez Sega pour ce jeu. Ça prouve une chose, c'est que Yuji Naka, il s'est totalement fait à sa nouvelle casquette de producteur et qu'il a même plutôt du flair dans ce domaine. Surtout quand on sait que ce jeu, bah, il l'a produit d'une seule main. En 1997, alors même que Burning Rangers est en train d'être développé, en fait, Yuji Naka, il est surtout occupé à autre chose, parce qu'il est très impliqué dans la création de la prochaine console de Sega, la Dreamcast. Un des gros points forts de Sega lors de la création de la Dreamcast, c'est justement d'avoir changé un peu sa philosophie et laissé le champ libre à ses artistes maison. À ce propos, il y a un super documentaire en deux parties sur la chaîne d'Archipel, c'est sur YouTube, c'est gratuit. D'ailleurs, je vous le recommande vraiment, hein, s'il y a vraiment une seule vidéo sur la Dreamcast que vous devez regarder, c'est bien celle-là. Je vous mets un lien dans la description. Toujours est-il que Yuji Naka, il va enfin pouvoir mettre un petit peu de lui dans cette prochaine console, et surtout la modeler à l'image de son projet le plus ambitieux jusqu'ici, le Sonic qui accompagnera la sortie de la console. Et ce prochain Sonic, qui sera la première vraie aventure de Sonic en 3D, elle représente beaucoup pour Yuji Naka et Sega après la Bérésina qu'a été toute la période Saturne. Les enjeux sont énormes, que ce soit pour Yuji Naka ou pour Sega. Il décide donc de se dédier tout entier à ce nouveau Sonic, et il va assumer le rôle de producteur sur ce qui deviendra rapidement Sonic Adventure. C'est une période assez folle de l'histoire de Sega, parce qu'à l'époque, la marque rentre en guerre pour essayer de rester pertinente, et donc forcément, elle ne lésine pas sur les moyens. C'est dans ces circonstances que va naître la Sonic Team en tant que vrai studio, dans lequel Sega va mettre des moyens gigantesques tout au long de la vie de la Dreamcast. Des voyages pour repérage avec Sonic Adventure 1, un déménagement à San Francisco pour Sonic Adventure 2, tous les moyens sont bons pour faire plaisir à Yuji Naka et à sa Sonic Team, et en même temps, je comprends totalement pourquoi. Chez Sega, personne n'a envie de revivre ce qui s'est passé avec la Saturn, et donc la Sonic Team, ça devient un petit peu l'enfant gâté de la famille à qui il ne faut surtout rien refuser. Il faut surtout pas les vexer, parce que si le Sonic est pas là à la sortie, et bah la Dreamcast, elle passera pas l'hiver. Yuji Naka, toujours sur sa chaise de producer, mais aussi sa toute nouvelle place de patron de studio de la Sonic Team, il va laisser Takashi Iizuka réaliser les deux Sonic Adventures pour lui. Je mentionne Takashi Iizuka parce que ça fait déjà quelques temps qu'il travaillait avec Yuji Naka, il l'avait rejoint aux États-Unis pour Sonic 3 et Knuckles. C'est quelqu'un de plutôt important pour la série, vu qu'il va se retrouver producer et qu'il va produire tous les Sonic, encore jusqu'à aujourd'hui avec Sonic Frontiers. Takashi Iizuka, c'est pareil, il y aura une vidéo complète à faire sur lui, je vais pas la faire maintenant. Mais sachez juste que c'est Yuji Naka qui va lui mettre le pied à l'étrier, en devenant une sorte de mentor pour lui pendant la période Saturn et Dreamcast. D'ailleurs, en parlant du développement de Sonic Adventure, faut bien vous rendre compte que Yuji Naka, il est prêt à tout pour que ce premier Sonic soit une bombe technique. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une anecdote qui fait assez froid dans le dos, c'est Mark Subtonic, un ancien producteur de chez Sega of America, qui la raconte. En fait, il explique qu'il bossait sur un jeu Dreamcast, une sorte de clone de Star Fox, qui devait s'appeler Geist Force. Les types, ils sont super contents parce qu'ils ont réussi à faire un jeu qui claque techniquement, et ils sont quasi sûrs d'en faire un système seller pour la machine. Alors cherchez pas, le jeu a été annulé à l'époque, aujourd'hui il est possible d'y jouer, mais à l'époque, il a été complètement annulé. Là où l'anecdote devient un petit peu plus cringe, c'est quand on s'intéresse au pourquoi du comment de l'annulation de ce jeu.
C'est une histoire triste. Et tant pis si la vérité prend des proportions démesurées. Un jour, Naka est venu nous rendre visite avec son équipe pour regarder nos outils et notre moteur. Nous travaillons sur beaucoup de technologies propriétaires assez folles. Naka s'est pas rendu compte qu'une partie des développeurs parlait couramment japonais. Il s'est adressé à son équipe et leur a expliqué qu'il allait récupérer certaines de nos technologies pour Sonic Adventure sur Dreamcast, et qu'il faudrait licencier tout le monde quand nous aurions terminé le travail, sauf un ingénieur qui intégrerait la Sonic Team. Tout le monde l'a entendu. Vous pouvez imaginer ce qu'ils ont ressenti. Naka était assez puissant chez Sega à cette époque.
Voilà comment on s'assure que son Sonic en 3D soit le jeu le plus impressionnant de la console, quitte à faire annuler un jeu complet et même carrément virer toute la team. Et c'est un peu ça la méthode Yuji Naka. À l'époque, il sait que Sega a besoin de lui et du coup, il en profite pour se permettre tous les coups bas. La Dreamcast lui rend bien puisque sur cette plateforme, il va devenir un producteur accompli. Puisqu'en dehors des Sonic, il va aussi produire Samba de Amigo, Puyo Pop Fever et Phantasy Star Online. Phantasy Star Online, c'est assez important parce que en plus d'être dans la continuité de son travail sur la Mega Drive avec les Phantasy Star, cet épisode Dreamcast deviendra une espèce de pierre angulaire pour le jeu multijoueur en ligne sur console. Et si vous voulez mon avis, c'est peut-être la chose la plus notable dans la carrière de Yuji Naka en dehors de la création de Sonic. Comme le prouvera malheureusement le reste de sa carrière. Bon, on va pas se mentir, la mort de Sega en tant que constructeur à la fin de la Dreamcast, ça va un peu chambouler la carrière de Yuji Naka. Bon, lui, on n'a pas l'impression qu'il se rend compte tout de suite de ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une anecdote très marrante à ce sujet de Peter Moore. Bon, Peter Moore, vous le connaissez sans doute pour avoir été vice-président de la branche Xbox pendant la période Xbox et Xbox 360. Mais si vous ne le saviez pas, bah juste avant ça, il était président de Sega of America. D'ailleurs, justement, c'est lui qui a aidé à transitionner Sega de constructeur de consoles à simple éditeur de jeux pour d'autres consoles. Pendant cette période, bah Peter Moore, il va tout faire pour essayer de faire prendre conscience au grand monde chez Sega que la marque est en forte baisse de popularité depuis l'arrivée des consoles en 3D. Peter Moore, un jour, il va carrément présenter au Japon, en salle de réunion, une VHS qui contient une espèce de séance de questions-réponses avec un panel de jeunes américains. Dans ce petit film sous-titré en japonais, on demande à ces Américains de décrire les éditeurs de jeux vidéo comme des membres de leur famille ou des gens qu'ils pourraient connaître. Alors EA, c'est le cousin footballeur qui se la raconte. Rockstar, bon, c'est l'oncle un peu bourré qui dit que des conneries pour se faire remarquer. Et puis arrive le tour de Sega, et évidemment, le panel n'y va pas de main morte. Globalement, Sega est à chaque fois décrit comme étant ce grand-père qui était cool à une époque, mais c'était tellement loin qu'on se souvient même plus pourquoi il était cool. Et là, c'est trop pour Yuji Naka. Il se lève et il tape du poing, et il commence à accuser Peter Moore d'avoir truqué les sous-titres, que personne pouvait lire ça sur Sega, que c'était un affront parce que Sega est une grande marque. Peter Moore, il souffle un coup, mais il va pas se démonter. Il se tourne vers son interprète et lui demande de traduire « fuck off ». Globalement, dis-lui d'aller se faire foutre. Peter Moore va claquer la porte de la salle et Yuji Naka et lui ne s'adresseront plus jamais la parole. Bon, Yuji Naka, il va bien s'en remettre parce que lui, ses priorités depuis la mort de la Dream, elles ont pas trop changé. Même si autour de lui, il ne peut pas nier, les choses changent. Déjà, il y a deux Super Sonic en 3D qui sont restés coincés sur une console morte. Ça, en tant que producteur, ça doit être horrible. Mais aussi, il a laissé partir son pote Naoto Oshima, qui a claqué la porte de Sega pour voler de ses propres ailes et créer son studio qui s'appelle Artoon. Bon, la période 128, ça va peut-être être un peu déprimant pour lui. Bon, d'abord, il produit beaucoup de Sonic. Pour quelqu'un qui avait envie de s'en extirper il y a quelques années, j'imagine que c'est pas ouf. Et puis il regarde ce que fait son pote Naoto Oshima en face, il crée Blinks qui est pressenti pour devenir la nouvelle mascotte de la Xbox. Bon alors spoiler, ça n'arrivera jamais, mais à l'époque tout le monde ne parle que de ça. Naoto Oshima qui se fait aussi appeler le papa de Sonic pour l'occasion. Alors je sais pas à quel point ça l'a motivé, mais toujours est-il que Yuji Naka va partir à la conquête de la Nintendo GameCube, voir s'il y aurait pas moyen de se faire remarquer de ce côté-là. En plus de ça, la Xbox est déjà saturée de titres Sega, donc autant aller sur un terrain où il reste des choses à conquérir. C'est une machine en plus que la Sonic Team commence à bien connaître, puisqu'ils ont porté les Sonic Adventures dessus. Et c'est un peu comme ça que va naître Billy Hatcher and the Giant Egg, produit par Yuji Naka. Et il suffit de jouer au jeu pour comprendre que Yuji Naka, il a voulu un peu faire son Mario. Déjà, c'est un des rares jeux GameCube à peut-être être aussi coloré qu'un jeu Nintendo. C'est un jeu qui est beaucoup plus proche d'un Mario Sunshine que de n'importe quel Sonic. Et même dans les univers, on dirait un croisement parfait entre les univers de Sega et de Nintendo. Et c'est pas une critique, hein, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour ça, justement. C'est un très bon mélange entre l'esprit arcade de Sega et la philosophie didactique du level design de Nintendo. Bon, malheureusement, c'est un jeu à la difficulté mal dosée, qui vous fera avoir des crises de nerfs sur la fin, et c'est pour ça que peu de gens y rejouent. Bon, avec Billy Hatcher, on commence aussi à comprendre que l'expertise technique de Yuji Naka, elle commence doucement à se diluer dans les évolutions technologiques. Et à ce moment-là, on est en droit de se demander si le gars est encore vraiment pertinent. Billy Hatcher, c'est très correct, hein, mais c'est loin d'être la claque technique d'un Sonic ou d'un Knights. Et je crois qu'il va s'en rendre compte parce qu'il va tranquillement délaisser un petit peu le monde des mascottes pour se retourner vers ses premières amours. En fait, à cette époque, Yuji Naka, il va commencer à produire certains épisodes de la série Sega Ages 2500 sur PS2. Alors les Sega Ages 2500, c'est une gamme de jeux PS2 qui se voulait remettre au goût du jour certaines gloires du Sega du passé en proposant des remakes de jeux Sega, souvent accompagnés du jeu original. C'est une gamme qui est sortie qu'au Japon et qui était assez populaire parce qu'elle coûtait pas cher, 2500 yens, d'où le nom Sega Ages 2500. Vraiment, je vous recommande de vous intéresser à cette gamme parce qu'il y a plein de petites pépites, tout n'est pas bon, mais il y a vraiment des jeux qui valent le coup de se les procurer, et notamment elle a permis à certains jeux mythiques de chez Sega comme Die Hard Arcade ou Knights justement de ne pas rester coincés sur leur console d'origine. Je crois qu'il y a même Panzer Dragoon hein, qui est ressorti comme ça en 2500 et qui peut être rejoué sur PS2 du coup. Et d'ailleurs, dans ces trois exemples, c'est Yuji Naka lui-même qui va superviser la ressortie de ces jeux, tout comme il va superviser aussi la ressortie de Space Harrier dans cette même gamme. Donc voilà, en 2005, alors qu'il produit du Sonic à la chaîne, il va s'investir et superviser personnellement la ressortie de ces jeux-là. J'imagine que ça devait lui tenir à cœur, puisque par exemple Space Harrier, on sait qu'il a commencé en faisant des conversions pour la Master System. Et j'imagine que ce retour aux sources devait lui tenir à cœur. Par contre, si ça démontre bien quelque chose, c'est qu'il sait plus trop où est sa place chez Sega. D'ailleurs, la série Sonic, elle est dans la tourmente, hein, les joueurs, ils reconnaissent plus leur mascotte, et même si c'est pas forcément la faute de Yuji Naka qui n'était que producteur, je pense que ça doit quand même un minimum l'affecter. En plus de ça, Billy Hatcher n'a pas du tout engendré le succès escompté, que ce soit sur GameCube ou avec sa ressortie sur PC. Et puis surtout, à cette époque-là, Sega se fait racheter par Sammy Holdings, un géant du pachinko. Ce rachat, c'est un petit peu la mort du Sega qu'on a tous connus dans les années 90, ce même Sega qui avait déifié Yuji Naka et l'avait mis tout en haut de son piédestal. Et malheureusement, il faut dire ce qui est, c'est le début de la fin pour cette belle histoire d'amour. Alors avant de partir pour d'autres horizons, Yuji Naka, il va filer un gros coup de pouce à Sega. Déjà en produisant le premier jeu de Sega pour la nouvelle DS de Nintendo, Yuji Naka voit la console en avance, il l'adore, mais surtout ce qui le séduit, c'est le concept de casual gaming. On le sait, il a toujours aimé faire des jeux les plus accessibles possibles, avec des idées faciles à comprendre. Et je pense qu'il va se lancer à fond là-dedans, parce qu'il va très vite comprendre que Nintendo est en train de changer la donne sur ce terrain-là. Et en vrai, c'est pas une mauvaise idée d'essayer de reprendre sa place de King en faisant un jeu très accessible qui se vend beaucoup. Et c'est exactement ce qui va se passer avec son jeu Project Rub qui va sortir pour la Nintendo DS et qui exploite parfaitement toutes les capacités de la console. C'est une très belle démo technique pour la console de Nintendo, et le jeu va bien se vendre au point qu'il y aura même un préquel, vous savez peut-être pas, il y a eu un préquel à Project Rub qui s'appelle Rub Rabbit et qui est à peu près dans la même veine. Ajoutez à ça le succès des Sonic Rush et des Phantasy Star qui produisent pour la même console. À côté de ça, il est en train de travailler sur un énorme projet, un reboot de la série Sonic, qui est censé sortir pour les 15 ans de la mascotte. Et oui, on parle bien de Sonic 2006, et oui, c'est un peu la faute de Yuji Naka. Il est d'ailleurs responsable de plusieurs grosses décisions qui ont influé la direction du jeu. Par exemple, c'est lui qui va insister pour avoir un moteur physique réaliste. D'ailleurs, il va bien forcer, hein, parce qu'il va les faire commencer sur le moteur d'Astro Boy sur PS2 qu'il avait produit l'année d'avant. Et bon, déjà, regardez la gueule du moteur physique d'Astro Boy. Évidemment que c'était mal barré. Ensuite, le fameux Sonic the Hedgehog reboot, il est censé sortir sur 360 PS3 et oui, sur les trois plateformes. Du coup, Sega qui hésite en rien, il lui deux réalisateurs avec qui il avait l'habitude de travailler, Yojiro Ogawa et Shun Nakamura, qui sont deux de ses élèves avec qui il bosse depuis la période Dreamcast. Et malgré leur présence, bah le projet prend du retard, Sega est pas content, ils leur font produire du trailer un peu fake pour l'E3, ils savent même pas si le jeu pourra ressembler à ça ou pas. En tout cas, ils se rendent compte que le jeu y ressemblera jamais à ça sur Wii, vu que la Wii elle a zéro patate, et que porter le jeu dessus, ça va être un vrai challenge. Sega, ils décident donc de couper l'équipe en deux, en mettant la plus grosse partie de l'équipe sur le portage Wii de Sonic the Hedgehog, et le reste sur la version 360 et PS3. Alors c'est une décision qui soulage une partie des équipes, notamment ceux partis bosser sur la version Wii, qui au final vont un peu s'approprier le truc et dire bon bah en fait on fait notre Sonic, Sega est plutôt d'accord avec ça, parce que vu que la Wii cartonne, c'est plutôt pas mal d'avoir un Sonic spécialement pour elle. Et le jeu deviendra Sonic Wildfire, qui deviendra lui-même Sonic and the Secret Rings, que vous connaissez tous. Sega est content, les devs sont contents, tout le monde est content, sauf bah, les gens restés bosser sur Sonic the Hedgehog, parce que eux, ils galèrent avec la version 360 et PS3. Déjà parce que c'était le second réalisateur qui se retrouve à la tête du projet, Shun Nakamura, et que lui, bah, il avait juste bossé sur Samba des Amigos et Billy Hatcher, donc il sait pas ce qu'il fout là, il crie au secours. Vraiment, vous imaginez pas la pression que c'est, le gars il devait crier à l'aide dès qu'il voyait ses patrons. Il leur faut absolument un superviseur expérimenté, et du coup à ce moment-là, Sega va se tourner vers la seule personne qui pourrait faire le job, Yuji Naka. Et Yuji Naka, en fait, et bah, il va leur dire, bah non, salut. Et ouais, en 2006, en plein développement chaotique de Sonic 2006, Yuji Naka va annoncer qu'il quitte Sega pour fonder son propre studio. D'ailleurs, il est assez malin parce qu'il va jouer un peu sur les deux tableaux jusqu'à son départ. Déjà, il va réussir à prendre le beurre et l'argent du beurre de Sonic 2006 puisqu'il va faire toutes les interviews sur le jeu alors qu'au final, il l'a même pas produit. Enfin, pas entièrement. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, j'avais acheté le numéro 1 de Sonic Magazine. Oui, oui, c'est vrai, c'est un vrai truc. Et oui, c'est sorti en France, hein. Je l'avais acheté parce que dedans, il y avait justement une grosse interview de Yuji Naka à propos de Sonic 2006. Et si jamais vous avez le magazine chez vous, dites-moi, je serais très curieux de relire cette interview. Dans mes souvenirs, il en a fait des caisses, il a survendu le jeu exprès alors qu'il savait que c'était une galère. Et je pense que ça doit être très drôle à lire parce que ça a dû être juste avant qu'il annonce son départ. Alors son départ, ça a été une décision brutale, mais je sais pas si ça découle directement de ce qui s'est passé sur le développement de Sonic 2006. Il y a peut-être le fait que Sega voulait faire une suite de Night sur Wii alors que Yuji Naka était pas trop chaud, ou peut-être que la réponse à ça, elle est aussi dans les tout derniers projets auxquels Yuji Naka va participer en tant que producteur pour Sega. En fait, pendant le développement de Sonic 2006, Yuji Naka, lui, il était occupé à autre chose. Il était avec Sega en train de bosser sur un gros projet pour la Wii qui était censé sortir 2 ans plus tard. C'est un projet dans lequel il s'est investi au départ et qui devait lui tenir à cœur, mais qu'il a dû laisser tomber quand il a claqué la porte de chez Sega. Ce gros projet en question, c'est le tout premier Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qu'il a aidé à mettre sur les rails avant de partir. Alors certes, il quitte Sega pour fonder son studio propre, mais il va quand même rester en bon terme avec eux, puisque c'est Sega qui va éditer les deux premiers jeux de ce studio, Let's Catch et Let's Tap. On avait compris que Yuji Naka était captivé par la façon dont Nintendo avait rendu populaire le casual gaming. Du coup, ça m'étonne même pas qu'il se soit lancé dans ce projet qui est un petit peu original. En fait, Yuji Naka, il veut capitaliser sur le succès des accessoires pour la Wii, tout en produisant un accessoire pas très cher, mais aussi qui soit assez original pour sortir du lot. Il va donc créer Let's Tap, qui est un jeu qui se joue avec une boîte en carton. En fait, l'emballage du jeu servait d'accessoire, on posait la Wiimote dessus et il suffisait de tapoter le carton pour faire bouger les personnages à l'écran. Dans mes souvenirs, il y avait plusieurs mini-jeux, notamment un jeu de course d'obstacles à 4 qui marchait plutôt pas mal. Le problème avec Let's Tap, c'est que pour y jouer à 4, bah, il faut 4 Wiimotes, mais aussi 4 cartons. Et du coup, personne n'a envie d'acheter 4 fois le même jeu pour avoir les 4 cartons pour jouer à 4 devant un seul écran. Alors évidemment, tu pouvais choisir d'autres emballages, d'autres cartons, mais forcément, ça déséquilibrait un peu le jeu puisque tous les cartons n'étaient pas aussi rigides et ne réagissaient pas pareil à la Wiimote. Alors le jeu, il est pas mauvais, hein, ça fonctionne très bien, mais c'est juste que c'est un peu gadget. Et c'est surtout une première incursion pour Yuji Naka sur la Wii qui est en demi-teinte, même s'il se dit qu'il a quand même une carte à jouer sur la console. D'ailleurs, il va même en profiter pour porter le jeu qu'il avait fait sur smartphone l'année précédente sur DS et sur Wii. Ça s'appelle Eevee the Kiwi, c'est super mignon et je vous recommande d'y jouer parce que c'est un jeu super sympa. D'ailleurs, Eevee the Kiwi est un succès d'estime, les critiques du jeu sont bonnes et même s'il fait pas énormément de ventes, ça confirme un peu son intuition et il se dit qu'il y a bien quelque chose à faire avec la Wii. C'est sans doute pour ça que dès 2010, Yuji Naka va faire bosser ses équipes sur un jeu beaucoup plus ambitieux que Let's Tap. Un jeu d'action tout en 3D, calibré pour la Wiimote, sur une Wii couronnée de succès, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Alors, ce projet de jeu, il s'appelle Rodea the Sky Soldier, et vous allez voir que rien ne va vraiment se passer comme prévu. Faut savoir que les premières images donnaient vraiment envie, surtout à cette époque, la Wii, on lui donnait plus grand chose à manger. Et d'ailleurs, le développement du jeu Wii, il se fait très rapidement, le jeu, il est terminé, sauf que l'éditeur du jeu, Kadokawa Games, il veut absolument une sortie en simultané sur la 3DS qui vient de sortir à ce moment-là. Kadokawa va donc prendre la décision de produire eux-mêmes une version 3DS de Rodea the Sky Soldier, une version un peu différente du jeu, jeu qui tournera plutôt au tactile qu'à la Wiimote. En attendant, bah, le jeu Wii qui est terminé, je le rappelle, il est mis de côté le temps que tout le monde accorde ses violons pour une sortie multi-support digne de ce nom. Bon alors vous imaginez bien que Yuji Naka il se tourne pas les pouces en attendant, hein, il est encore producteur sur beaucoup de jeux. Il va notamment produire Wii Play Motion, la suite de Wii Play sur la Wii, le fameux jeu qui était vendu avec une Wiimote Wii Motion Plus à l'époque où elle venait de sortir, ce qui fait que du coup c'est un jeu qui s'est plutôt bien vendu. Alors je vais pas m'attarder dessus parce que ce jeu il est un peu particulier, faut savoir que chaque mini-jeu de la compilation a été fait par un studio différent. Notez juste que dans la liste des studios qui vont développer les mini-jeux, on retrouve le tout nouveau studio de son vieil ami Naoto Oshima. C'est un studio qu'il a fondé sur les cendres de Artoon et qui s'appelle Artzest. Retenez bien ce nom, ça va être important pour la suite. Et d'ailleurs au passage, je pense que Yuji Naka devait être ravi de redevenir le patron de Naoto Oshima. Et puis peu de gens le savent, mais Yuji Naka et son studio, ils ont aussi bossé sur un certain nombre de mini-jeux qui étaient disponibles dans la place Street Pass de la 3DS. Notamment le manoir Street Pass qui était disponible dès 2013. 2013 et Rodea the Sky Soldier est toujours pas sorti. Alors la version 3DS de Kadokawa, elle est terminée, mais Yuji Naka il va faire face à un autre problème. En fait, entre le développement du jeu original sur Wii et celui de sa version 3DS par Kadokawa, il s'est passé 2 ans pendant lesquels Nintendo a annoncé puis sorti sa nouvelle console, la Wii U. Et c'est vrai que sortir un jeu sur la nouvelle console portable mais sur l'ancienne console de salon, c'est pas très vendeur, surtout pour un jeu qui se voulait dans l'air du temps. C'est pour ça que Kadokawa, ils vont commencer à développer une version Wii U directement adaptée de sa propre version 3DS. Avec le gameplay du jeu qui se joue principalement au tactile. Sauf qu'un jeu Wii U ça se pompe pas comme ça et que l'adaptation de leur jeu 3DS elle n'a été terminée qu'en 2015. Bon alors je sais c'est pas bien de rire, surtout que là c'est l'éditeur qui a fait n'importe quoi. Sans oublier qu'au final les versions 3DS et Wii U elles ont plus rien à voir avec le jeu original sur Wii. Le jeu original sur Wii il était plutôt conçu pour utiliser les capacités de la Wiimote, alors que la version de Kadokawa c'est un jeu où tu vas plutôt tracer des petits ronds au tactile. Et alors c'est pas 100% du gâchis parce que quand le jeu va sortir sur Wii U en 2015, Kadokawa va quand même avoir la présence d'esprit d'offrir le jeu Wii à l'intérieur des boîtes du jeu Wii U. Ce qui fait que quand vous achetiez Rodea the Sky Soldier sur Wii U, vous vous retrouviez dans la boîte avec la version Wii en bonus. Ce qui est quand même sympa vu que la Wii U était rétrocompatible avec la Wii. D'ailleurs cette version Wii j'y ai joué et plus j'y jouais plus je comprenais pourquoi Kadokawa faisait tout pour reporter le jeu. Alors j'ai bien aimé la DA du jeu hein, et la soundtrack aussi elle est excellente, mais même si on le reprend dans son contexte, c'est à dire comme un jeu Wii qui aurait dû sortir en 2011, c'est un jeu qui manque clairement de variété dans son gameplay, parce que globalement c'est le concept du homing attack de Sonic mais étiré sur 6 heures de jeu. Après je pense que même si le jeu avait été extraordinaire, ça aurait pas changé grand chose. Et vous doutez bien que dans ces conditions de sortie, le jeu il va juste passer inaperçu. Il va rien rapporter et surtout il va faire énormément de mal à la réputation de Yuji Naka. Et je pense que ça a dû sincèrement lui crever le cœur de devoir se séparer de tous ses employés à cause d'un jeu qui au final n'était plus vraiment le sien. D'ailleurs si vous voulez être encore plus triste pour Yuji Naka, il vous suffit d'aller consulter la page Wikipédia de son studio, Prop, où vous pourrez y lire la mention suivante. Prop est un studio de développement de jeux vidéo japonais fondé par Yuji Naka, qui désormais ne compte plus que lui-même. Alors on retrouve Yuji Naka 4 ans après la débâcle de Rodea the Sky Soldier, en janvier 2018 quand il va annoncer sur sa page Twitter qu'il va travailler pour Square Enix. Alors au départ quand il en parle il a l'air plutôt fier d'aller là-bas même s'il a quelques réserves et qu'il dit qu'il se sent pas forcément de réaliser du JRPG. Et au final il va vite annoncer qu'il bosse sur un premier jeu pour Square Enix, le fameux Balan Wonderworld. Alors vous avez sans doute entendu parler de cette sortie navrante de Square Enix, Balan Wonderworld, que ce soit par des vidéastes, des streamers ou même les tests, le jeu il a été excessivement mal reçu. Et je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas joué à Balan Wonderworld du tout, je suis pas con, hein, je lis les tests. Puis faut dire que moi généralement quand un jeu prend une grosse sauce comme ça, j'ai tendance à me méfier. Par contre, ça m'a pas empêché de m'y intéresser un tout petit peu. Notamment parce qu'on voit de façon limpide à quel point les idées de Yuji Naka ont pu influencer le concept même du jeu. Et qu'on soit clair, dans Balan, on retrouve clairement des aspects qui font partie intégrante de la vision de Yuji Naka en tant que réalisateur de jeux vidéo. Et un exemple simple, c'est le fait d'avoir voulu faire de Balan Wonderworld un jeu qui se joue à seulement un bouton d'action. Si vous avez regardé la vidéo depuis le début, ça devrait vous rappeler quelque chose. Et on retrouve même cette patte dans le studio que Yuji Naka va choisir pour développer le jeu avec lui, c'est-à-dire le studio Artzest. Oui, oui, il s'est dirigé tout de suite vers son collègue de toujours, Naoto Oshima, avec qui il va même fonder la Balan Company pour toute leur prochaine collaboration. Alors là, évidemment, la fanbase explose, hein, c'est le retour des grandes heures de la Sonic Team. Et les joueurs vont même accueillir chaleureusement les premières révélations du design de Balan. Mais bon, pendant son développement, on n'entend pas trop parler de Balan, et c'est à partir de la sortie de la première démo du jeu que le monde de Yuji Naka va s'effondrer. Déjà parce que les joueurs vont pour la toute première fois pouvoir critiquer le jeu, et ils vont le faire beaucoup, et à raison. D'ailleurs la presse aussi hein, va se mettre à défoncer le jeu dès la démo. Mais la vraie douche froide, c'est quand on va apprendre, encore une fois via la page Twitter de Yuji Naka, que ce dernier s'était fait virer 6 mois avant la sortie du jeu. Il annonce au passage qu'il a attaqué Square Enix en justice, et il en profite pour s'excuser à moitié pour la qualité douteuse de Balan Wonderworld qui était sortie quelques jours plus tôt. Wow, ok. Bon alors déjà après ça, Balan Wonderworld il a plus aucune chance de toucher un quelconque public. Surtout que Yuji Naka va se faire un malin plaisir de se poser en victime dans un certain nombre d'interviews, notamment parce que Square Enix aurait tenté de faire disparaître toute trace de son implication sur le jeu. Alors là, je vais prendre énormément de pincettes parce qu'on a que son explication et son point de vue à lui, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que les relations entre Yuji Naka et le studio Artzest ont commencé à se dégrader très rapidement. Square Enix aurait été averti par des plaintes concernant la façon de manager le studio de Yuji Naka, et il semblerait que ses relations avec Naoto Oshima se soient envenimées. Yuji Naka, il va aussi mettre ça sur la faute d'un partenariat entre Square Enix et un YouTuber pour remplacer une des musiques du jeu. Apparemment, il aurait été jamais d'accord sur le principe, ce qui peut se comprendre, et il se serait beaucoup battu avec Square Enix sur ce sujet. D'ailleurs, il va toujours un peu argumenter comme ça en disant que Square Enix ne respecterait pas les créateurs de jeux vidéo ainsi que leurs fans. Le problème avec Yuji Naka, c'est qu'on est tellement habitué à ce que ce soit un espèce de méga connard qui voit pas plus loin que le bout de son nez, qu'on a extrêmement de mal à avoir de l'empathie pour lui dans cette affaire. Parce qu'on l'a vu tout au long de cette vidéo, Yuji Naka, il se comporte souvent comme un gros bébé colérique. Et il a piqué sa grosse colère avec ce fameux tweet hein, qui faisait l'ouverture de la vidéo, je suis désolé, c'était il y a au moins 40 minutes. La fameuse photo où il avait grossièrement censuré un des membres de son équipe sur Nights into Dreams, et en faisant quelques recherches, on se rend compte que la personne qui a été censurée sur cette photo n'est autre que Naoto Oshima. Et quand on lui demande pourquoi il a fait un truc pareil, le seul truc qu'il trouve à redire, c'est « voilà ce que ça fait quand on t'efface de l'histoire ». Alors de deux choses l'une, on peut pas réécrire l'histoire et je comprends ce que ça a dû lui faire quand Square Enix a essayé de l'expulser le plus loin possible de Balan. Mais quand même, ça se voit que l'argument il est giga pété. Le gars, il a un seum intersidéral. Et je vais même vous dire plus, vous savez que je suis un fan de Sonic et que j'ai suivi la carrière de ce type à peu près toute ma vie. Mais pourtant, quand j'ai vu l'annonce de son licenciement et ses réactions suite à ça, et quand j'ai vu ce fameux tweet avec cette fameuse photo, eh bien j'étais même pas étonné. Et la vérité, c'est que depuis quelques années, on entend plus souvent parler de Yuji Naka parce qu'il pète plus haut que son cul que pour la qualité des jeux vidéo qu'il produit. Et je suis bien curieux de savoir ce que lui réserve l'avenir dans l'industrie du jeu vidéo, parce que maintenant, c'est lui le grand-père qui était cool à une époque, et qu'on se souvient même plus pourquoi.